Vous écoutez le podcast Apprendre le dessin avec Yo ici présent. Épisode numéro 1. Maintenant, découvre ma musique d'intro.
Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin avec Yo, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend.
Hey, bienvenue pour le tout premier podcast d'apprendre le dessin. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de faire ce podcast et je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps, mais je suis content que ça soit enfin live, enfin disponible sur le blog et sur iTunes et sur YouTube aussi. Donc, je suis super content. Dans ce podcast, je vais essayer en fait de vous faire découvrir un artiste par épisode lors d'une interview. Et l'idée, c'est d'apprendre des artistes, d'apprendre... de se nourrir de leur expérience. Je vais leur poser des questions, que vous puissiez apprendre, que je puisse apprendre et qu'on puisse apprendre tous ensemble. Alors, ma première invitée, c'est une de mes très bonnes amies que j'ai rencontrée au Gobelin. C'est Hélène Leroux. Elle fait plein de choses. Elle fait de l'illustration, du concept art, du visual development, du character design. Mais surtout, depuis quelques temps, elle est devenue la première française à créer le doodle de Google. Vous savez, c'est les illustrations, les animations qu'on voit lors des... quand il y a des jours événements sur la première page de Google en général. Et de temps en temps, c'est Hélène Leroux qui les a dessinés, qui les a créés. Donc avec Hélène, on va parler de son parcours, de ses stages, notamment chez Uli Meyer, parce qu'elle a fait une recherche sur Google pour décrocher un job à Google, et on va finir par parler de ses influences et de sa méthode de travail. Donc tout de suite, je m'excuse parce que c'est le premier épisode, donc le son est pas très bon, surtout qu'on était dans un café où il y avait peut-être un peu de bruit, c'était peut-être pas le meilleur endroit, mais c'est fait. Et je vous demande d'être indulgent parce que c'est ma première interview ever, donc les questions sont pas forcément incroyables. Là, je vends pas très bien mon podcast, donc je vais m'arrêter là. J'ai juste vous demander d'être indulgent. Mais la discussion, elle est vraiment intéressante, donc j'espère que vous allez kiffer. Du coup, je crois que j'ai tout dit là. C'est parti pour la première interview du podcast avec Hélène Leroux. Alors, salut Hélène.
Bonjour Yann.
Ça va?
Oui.
Bienvenue dans le podcast Apprendre le dessin. C'est la première que j'interview.
J'en suis ravie.
C'est assez génial.
Oui, beaucoup de chance. Beaucoup de chance.
Ouais, tu penses?
Non, oui.
Ok. Alors, comme c'est la première fois, je ne sais pas trop encore quelle question je vais te poser, mais on est parti. Première question.
Oui.
Où est-ce que tu es née?
Ah oui, on va revenir depuis le début.
Non,
alors.
Mais, raconte-moi ton enfance, quoi.
Voilà,
d'où tu viens,
voilà, tu vois,
comment tu t'appelles?
Alors, né à Paris, dans le 15e, en 1957.
Oui, c'est pas mal. Donc tu as 60.
Et oui.
Et quelques années.
Et le temps passe. Non, 1987.
1987.
Mais non, voilà, j'ai 21 ans, je vais avoir 30 ans là, l'année prochaine déjà.
Ça... Bravo.
Merci, c'est un accomplissement. Mais non, mais mon enfance, j'ai pas grand chose à en dire. Hein.
Donc c'était à Paris alors?
Oui, j'ai grandi à Paris, puis en banlieue, puis après 2 ans aux États-Unis. Puis je suis revenu en France où j'ai fini mes études.
Pourquoi tu étais aux États-Unis?
C'était pour le travail de mon père. On est parti 2 ans là-bas, toute la famille.
Et ça t'a plu?
Moi, ça m'a beaucoup plu. Je voulais passer ma vie, je voulais rester là-bas, mais bon, ma mère, elle a voulu rentrer, sa famille lui manquait trop, du coup, on est revenu s'installer en France.
C'était où aux États-Unis?
C'était dans le Massachusetts, à Boston. J'avais 9 ans, 10 ans, donc c'est vrai que ça marque à cet âge-là. Ça m'a permis bien d'apprendre l'anglais.
T'as appris l'anglais là-bas?
Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Ça m'a beaucoup aidé par la suite, je pense.
Et ça t'a donné envie d'y retourner par la suite?
Je crois que c'est toujours resté, ouais. C'est pour ça, dans mes études par la suite, j'ai voulu y retourner. Je sais pas, il y avait un appel des États-Unis que j'ai toujours un petit peu.
Que t'as toujours, mais t'es sur le coup là.
Peut-être l'année prochaine. D'accord.
Du coup, alors, t'es rentré en France, t'as fait tes études jusqu'à ton bac ici, et après?
Après mon bac, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire. J'adorais dessiner, je savais pas trop. J'ai fait un peu des recherches sur les écoles d'art publiques, privées qu'il y avait à Paris. Au final, j'ai tenté quelques concours d'écoles publiques. Je les ai pas eues. Je me suis inscrite dans une école privée, à l'école Penningen. J'avais vu les portes ouvertes, il y avait un niveau de dessin exceptionnel là-dedans, donc ça m'a vraiment donné envie, aux portes ouvertes en fait, de faire cette école-là et de savoir dessiner, d'apprendre à dessiner parfaitement. C'était très académique, hein. Penningen, on faisait beaucoup de cours de nus, on allait dessiner partout dans Paris, les opéras, les musées, les églises. On allait tout dessiner en fait. C'était ça qui est assez sympa avec nos grands cartons là, à raisin.
Ouais. Dessin d'observation.
Ouais, dessin d'observation à fond. La première année, c'était pratiquement que ça. Et ça nous a donné vraiment des bonnes bases après pour développer plus des univers personnels.
Ça a duré combien de temps en tout?
Penningen, c'était 5 ans.
5 ans.
Il fallait s'accrocher.
5 ans intense.
C'était intense. Bah oui, c'était beaucoup de dessins au début. Puis après, il y avait option architecture ou option art graphique. Moi, j'ai choisi option art graphique. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais bon, on a beaucoup appris au final. La typographie, composer des images. On a appris aussi à faire un peu d'animation, du numérique, des animations numériques, tout ça. Ça nous a ouvert en fait l'esprit à pas mal de choses, à apprendre à trouver des idées, à être créatif en fait. Ça a été une bonne école pour ça, savoir répondre à des sujets, comment dire, trouver des idées.
T'as aimé du coup la formation en fait là-bas?
Ouais, quand j'y étais, je trouvais ça assez intensif, mais avec le recul, c'est vrai que ça nous a donné vraiment des bonnes bases. Mais voilà, c'était quand même intense, hein. Ouais, nuit blanche sur nuit blanche, 10 projets en même temps, comme dans toutes les écoles. Hein. Après, je sais pas. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai fait, enfin, les gobelins après, mais c'était très différent.
Du coup, t'avais quand même touché un peu à l'animation là-bas?
Ouais, mais c'était très léger quand même. C'était plus. Comment on appelle les motion graphiques. C'était vraiment plus axé graphisme qu'histoire, storytelling, animation à la Disney ou à la Pixar. C'était plus... Comment il s'appelle celui qui a fait là, les Vertigo... Oui, non, mais celui qui a fait les génériques. Comment il s'appelle?
Ben oui, Solbass.
Solbass, voilà. Solbass. C'était plus à la Solbass que...
Donc un peu dans l'abstrait, quoi.
Oui, bah oui. Oui, voilà, c'était vraiment trouver son langage graphique dans cette école-là. Donc c'était vraiment intéressant.
Tu as le sentiment que tu t'es trouvé en tant qu'artiste là-dedans?
Ça m'a donné des voies, des pistes, ouais. Après, je ne me suis pas trouvé complètement parce que j'ai eu besoin de faire une autre école. Après, hein, j'ai tenté le concours des Gobelins à la sortie de. Enfin, mon diplôme des Gobelins, parce que je sortais. De Penningen. En 2010, ouais. Il sentait qu'il me manquait encore un truc, un côté technique. Je voulais apprendre plus vraiment les techniques de l'animation traditionnelle qui manquaient beaucoup dans cette école-là.
Qu'est-ce qui t'attirait dans l'animation?
Qu'est-ce qui m'attirait à l'époque? Je sais pas. Je trouvais ça fascinant, je crois, de créer des histoires, des personnages, des personnalités, en fait, de vraiment... c'est ce qu'on lit dans tous les bouquins d'anime, hein, d'insuffler la vie à tes dessins, c'est ça, de les faire parler, de les faire bouger, de les faire vivre. Je trouvais ça passionnant, en fait. C'est ça qui m'a... Bah oui, mais c'est ça, raconter des histoires, après.
Du coup, les Gobelins, 2010.
2010, c'est là que tout a commencé.
Tu as passé le concours, comment t'as trouvé le concours
enfin, bah, j'avais déjà passé, je l'ai eu la deuxième fois, hein. J'avais déjà passé en troisième année de Penningen pour voir un peu ce qu'il fallait faire, le niveau... C'était pas facile, c'est impressionnant hein, de passer le concours quand tu te retrouves dans une salle avec...
600 personnes.
Ouais, c'était ça, oh, 600, gars. C'était 800 la première année, je crois.
Ah ouais,
c'est...
ouais. Tu l'as passé en 2009?
Je crois que j'ai passé en 2008, moi, la première fois.
Ok, donc
si je l'ai eu en 2010. Oui, t'avais fait... Mais c'était à la Villette, c'est ça?
Ouais.
Le premier. Ben oui, non, mais C'était... Oui, c'était fou. Ben oui, tu te dis, mais comment c'est possible parmi tous ces dessinateurs? Et puis t'as l'impression que tout le monde est super doué, donc t'es là, tu compares, tu regardes les gens qui se lèvent, qui font des acting, t'es là, voilà.
Ouais.
mais moi ça m'a impressionné, je savais pas du tout, c'est la première fois que je faisais des acting ou des posing, ce genre de choses, hein. On faisait pas du tout ça, comme mon école graphique. Mais...
Il y avait un côté illustration BD dans le game ou pas? Qui pouvait t'aider pour le concours?
On a fait... Qu'est-ce qui m'a le plus aidé pour le concours?
Ah,
les croquis de nu, ça m'a beaucoup aidé parce qu'on a fait ça pendant 5 ans intensivement, donc ça nous a pas mal appris l'anatomie. Et les proportions, ce genre de choses. Illustration, on en a fait un petit peu, mais pareil, c'était pas dans l'idée de développer des histoires, ce genre de choses. Non, ce qui m'a aidé, c'était stage et j'ai réussi à obtenir. Ah ben non, j'ai fait un échange universitaire à Bournemouth en quatrième année. C'était la première fois, oui.
T'as touché à l'animation aussi.
Ah, j'ai touché à l'animation. Bah voilà, en fait, c'était ça. C'était pendant mon école, mon échange.
En Angleterre.
Ouais, bah oui, je crois que j'ai eu un coup de cœur là-bas. J'ai découvert l'étape d'animation, d'animer sur papier. C'était magique.
Traduit alors.
Ah oui, à l'époque c'était encore traduit. Je pense que maintenant c'est tout à l'ordinateur. Ouais. Même à Gobelin maintenant c'est tout. Il n'y a plus l'étape d'anime.
Ouais, ouais.
c'est triste. On était la dernière année. L'avant-dernière année.
Avant-dernière,
ouais,
je pense.
Bah ouais, et voilà. Mais moi, je crois que c'est ça qui m'a passionné en fait.
Ouais.
De voir les gens animer sur papier. De faire vivre leur perso au crayon, là, je trouvais ça fascinant. Et bah oui, en fait, c'est ça, c'est depuis cet échange, je vais oublier.
Ça t'a vachement aidé pour le concours.
Ouais, bah oui.
En 2010, et du coup, tu l'as eu.
Bah oui, c'est ça. Et
comment
j'ai
ça s'est passé?
Bah après Bournemouth, j'ai pu avoir un stage chez Méthode Animation, en fait. C'est là que j'ai rencontré deux personnes des Gobelins, Rachid et Vincent. Ouais. Et ils m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidé, donné beaucoup de conseils. Ils m'ont aidé à faire un tri dans mon portfolio, à me dire ce qu'il fallait travailler le plus, les posings, les actings, les recherches de personnages, les recherches d'univers, d'ambiance graphique, de couleurs. Il y avait un paquet de choses.
En général, on est toujours aidé par quelqu'un dans l'école.
Mais j'ai l'impression, ça aide quand même. Ils donnent vraiment des bons conseils.
Ouais, non, c'est sûr.
Donc je pense que ça m'a vraiment aidé là, à avoir le concours.
Et alors, quand t'as eu le concours,
t'as
ressenti quoi?
Oh, ça va,
c'était l'aboutissement d'une vie.
C'était... Bah ouais, c'est quand même, c'est... Bah je m'y attendais pas, oui, quand tu vois ta liste.
On en fait une montagne sur la liste. De ce concours, et au final, quand
t'es là... Au final, bon,
bah... Une fois, ouais, tu l'as eu, en fait.
Bah tu te retrouves dans ta classe, encore une année, scolaire, ouais. avec...
C'est signé quand t'arrives à 8h.
Voilà, c'est ça. Mais il y avait une bonne ambiance, j'étais contente dans la classe qu'on avait.
Donc je précise qu'on était dans la même promo.
C'était une bonne promo. Ben
on
s'est connus en première
ensemble.
Et oui.
La
deuxième année, le film pour Annecy. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est la première fois que je travaillais en équipe. C'était intéressant.
Première année.
C'est la première fois que tu bossais en équipe aussi, non?
Bien sûr. Première année, on avait fait en équipe.
Il y avait un truc en équipe en première année.
Un exercice de layout.
Ah oui, oh là là, c'est vrai.
Mais après, le premier vrai...
Bah ça, c'était basé sur le style d'un autre, donc c'est vrai que c'était...
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Le projet, c'était pour le film d'Annecy. Le
film d'Annecy, bah oui, c'était la confrontation de 5 réalisateurs, c'était intéressant.
Mais alors, attends, c'est à quel moment que tu avais bossé pour le studio Illumineur?
Ah, c'était avant Gobelin, ça, ouais.
C'était avant Gobelin.
Ouais.
Tu veux pas me raconter un peu ça?
Une meilleure. Mais j'étais pas resté très longtemps. C'était un mois. C'était mon premier stage à Londres. J'avais réussi à avoir un contact d'un contact à DreamWorks.
C'était de l'anime.
C'était de l'anime. Ouais, j'avais bossé sur le Saint Trinians là, le un trailer. En fait, Ulimeyer voulait faire une série d'animation basée sur les livres de Ronald Searle. Mm-hmm. Saint Trinians là, les comment là, les filles qui allaient à l'école privée de Saint-Trinian, qui faisaient plein de conneries. On peut dire des
romans, ouais.
Plein de bêtises.
Des bifs.
Oui, ça fait pro, c'est bien.
Bah oui.
Oui, ils voulaient adapter en fait cette série-là en une série télé. Ouais. Et du coup, il a créé un pilote pour ça. Et moi, j'ai aidé à bosser là-dessus, à créer les décors du film.
Et t'avais cliné, non?
Et j'avais cliné, ouais, parce que j'adore le style de Ronald.
Il y a l'extrait qui est toujours sur internet, hein. Je pourrais le mettre.
Il y a, oui.
Okay,
bah oui,
l'extrait en lien.
Oui, mais sur noir et blanc, il était mieux, moi je préférais. Parce qu'ils en ont fait un couleur après. Ils ont peint,
moi.
Bah
moi je connais que celui en noir et blanc.
Ah ouais? Ouais, mais après ils l'ont
colorisé,
ils ont
mis l'ancien, voilà. Okay.
Bon, je pense que l'ancien est encore là, mais bon, moi je le trouve meilleur en noir et blanc, vu que c'était les dessins originaux.
Mais ça, c'était une super expérience. Enfin, je sais pas, tu m'en as parlé souvent.
Bah, ça, c'est génial. Ah, bah oui. Découvrir les locaux à Londres, il est meilleur. Il a bossé sur des gros films d'anime, comme Space Jam.
Il est sympa. Comment tu l'as trouvé?
Il est super gentil. Ouais, super c'est gentil. Un Allemand. Il est venu là pendant l'âge d'or d'animation. Hein, c'est ce qu'ils disent dans les années 80-90. Et bah oui, c'était vraiment découvrir, c'était mon premier stage dans le milieu de l'anime traditionnel. Ouais, non, il y avait Méthode Animation, mais Le Petit Prince, mais Je sais pas, là, il y avait un côté plus anime traditionnel, animé, sur les tables d'anime. Ben ouais. Moi, je travaillais à l'encre et au crayon là-bas, c'était génial.
Le résultat est super, enfin, le trailer.
Ah, c'est vous.
C'est dommage,
oui.
En fait, ça n'a pas donné suite, en fait.
Eh ben non, bah parce que c'est toujours compliqué, hein, pour faire, ouais, des séries télé, il y avait... En noir et blanc, ça passait pas pour les enfants, c'était trop vulgaire, trop violent, donc évidemment, les producteurs ont tellement voulu changer la série, ça devenait plus rien, c'était plus du tout l'idée de base, donc il a laissé tomber, il fait ses propres projets. Maintenant, il a fermé le studio, hein, c'est dommage, ouais, il fait tellement de tradis que...
Ouais.
Ça arrive trop maintenant. Et oui, voilà, la 3D, c'est pas trop passé. Et...
Ok, bon alors... Parenthèse fermée sur Ulimeyer, mais je veux qu'on en parle. Et alors, du coup, Gobelin, ton expérience globale, comment t'as senti
comment
ces
j'ai
3
vécu
ans,
ouais. Ah, comment j'ai vécu les Gobelins. C'était. Bah, c'était intensif aussi, hein, au niveau du dessin. Hein.
Plus que Penny Game.
C'était pas au même niveau, je sais pas. Comment je pourrais l'expliquer, bah, c'était hyper technique en fait. Les Gobelins, c'était. On a vraiment appris de manière traditionnelle, hein, en première année, Fred. C'était... Tu veux en dire deux, trois mots sur Fred?
Moi, j'espère bien l'interviewer pour le podcast.
Non, tu, ça serait... Oh, mais oui, bah, là, t'es à des heures, hein, ça serait parfait. Hein.
Bah ouais.
Fred, bah oui, il nous a appris toutes les techniques de l'animation. Il y a tellement d'approches différentes, on a appris au fur et à mesure, hein, de toute manière. Mais
et le
oui.
Film en deuxième année. Ta première expérience de ton film en équipe.
D'Annecy ?
Ouais.
Ah, c'était intéressant, hein, ce travail en équipe. C'est pas facile, hein, de se...
c'était... Ouais, c'était pas facile, ouais.
Mais je sais pas, comment tu l'as vécu ? À toi d'en parler un peu.
Ah ouais, comment c'est... Bah, je sais pas, c'était... une expérience de création, de créativité.
Bah, c'est ça. Mais il faut trouver les talents qui se complètent, en fait, et c'est ça qui est...
Quand tout le monde est réalisateur, c'est problématique, en fait.
Bah oui, mais c'est ça le problème à Gobelin, tout le monde est réalisateur, bah, à la base.
Donc c'est un festival de compromis.
Mais oui, c'est beau, tu vois.
Personne ne prend... Enfin, il n'y a pas de décision claire sur le film, tout le monde a... On prend la solution qui va à tout le monde et c'est du coup pas la meilleure solution pour le film.
Bah voilà, faut que ça plaise un peu. Bah oui, c'est ça le problème, ça manque d'une direction claire.
Voilà. Sauf quand les équipes s'organisent pour avoir une direction claire, avoir un réal, un mec qui fait les couleurs.
Bah oui, c'est comme ça qu'ils ont choisi les équipes, il me semble. On avait tous marqué au tableau ce qu'on préférait faire, mais c'était niveau technique. C'était.
Mais il y a un moment où tout le monde peut pas.
Bah non, non.
Tu peux pas s'assembler.
Bah non, mais ça t'apprend à faire des compromis, hein, ça c'est
voilà,
sûr.
C'est...
Moi je suis plutôt solo en général, hein, quand je travaille à Penningen. On a appris à faire nos projets seuls, on n'était pas en équipe, donc là c'est la première fois que ça ouvrait un peu.
Et alors si t'es plutôt solo, comment tu te sens quand tu bosses en équipe? Comment tu t'es senti le Gobelin en équipe?
Bah t'apprends, t'échanges, c'est vrai que tu vois comment les autres travaillent, du coup, tu es confronté à d'autres techniques, d'autres idées, tu te remets en question aussi, c'est intéressant, c'est un échange d'idées, c'est...
Ouais.
Mais forcément, ça prend une tournure que...
Qui sera... Il y a personne.
Comment tu... Non, bah parce que ça, bah, c'était sympa au final, ça a rendu. Mais c'est vrai que chacun imagine différemment, hein, donc faut savoir accepter.
Ouais.
Je sais pas, d'autres styles, c'est pas facile. Je sais pas si je suis faite pour bosser en équipement encore.
C'est pour ça que finalement t'as demandé à.
À partir
t'as postulé pour partir
dit,
à Claire, pour faire ton film toute seule.
Ça me manquait peut-être. Ben oui, parce que. Je sais pas, j'aime bien travailler vite, efficacement. C'est vrai que quand t'es en équipe, t'as toujours des réunions pour reparler de ce dont on a parlé. Déjà, faut rediscuter sans arrêt. Et t'as l'impression de pas avancer. Il y a un moment, quand t'es tout seul, bon, bah, tu peux discuter tes idées avec les autres. Ils vont enrichir ton point de vue ou non. Mais au moins, t'avances. Tu vas dans ta direction. Tu vas. En équipe, faut toujours tout remettre en question. Et c'est vrai que c'est ça qui m'avait un peu bloqué.
Et au final. Comment ça s'est passé à Calars? Du coup,
t'as
cette liberté, t'étais
seule. Mais oui, du coup, c'était génial. On a rencontré plein de gens.
T'étais finalement retourné aux États-Unis.
Tu réalisais bah voilà.
Ton objectif.
Au final. Et ben oui, ça m'a bien. J'étais jamais allé. Si, j'étais déjà allé à Los Angeles, mais en vacances, c'était différent. Hein. Non, mais c'est bien. En fait, c'est génial de pouvoir aller dans une autre école et découvrir une autre manière de travailler. Là-bas, c'est vraiment différent. Il t'encourage quoi qu'il arrive, en fait. En France, on a tendance à te... Comment dire, à te...
Mettre le doigt sur les défis, ce qui ne va pas.
Oui, voilà. Pas forcément ton... On va pas t'encourager, on va dire, bon, bah non, ça va pas. Ça va te donner envie de tout quitter, de tout arrêter, tout abandonner. Alors qu'aux États-Unis, bon, tu vas faire quelque chose qui n'est pas terrible, mais ils vont te dire, c'est génial, c'est awesome, hein, continue. Et moi, ça m'a choqué. Je me dis, mais ils mentent. C'est pas comme ça que tu progresses. Mais au final, la motivation personnelle, c'est quand même un gros élément clé dans la réalisation, enfin, dans ce que tu veux faire. Ça te donne une énergie pour te...
La confiance en soi.
Oui, bah, c'est ça, la confiance en soi.
Ce que tu fais, c'est amazing. Tu as une confiance qui grimpe. En fait,
oui, bah, bon, après, ça peut aller dans le négatif aussi. Tu as des gens qui vont tout partager, qui vont voir qu'ils sont géniaux et qui... C'est pas génial. En France, j'ai l'impression qu'il y a des talents extraordinaires, mais qui savent pas se vendre. Alors qu'aux États-Unis, bon, il y a des super trucs, hein, mais ils ont tellement appris à se vendre, à savoir présenter, à savoir partager ce qu'ils font, que ça marche au final. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque en France. On n'exploite pas trop ce qu'on... On ne sait pas vendre, en fait, ce qu'on fait. Je ne sais pas, il y a un décalage à ce niveau-là. J'ai remarqué ça. Hein. Et à Calard, c'était un peu ça. Tout le monde y allait à fond. Tout le monde était super motivé. Tout le monde faisait ses films. Et en France, je ne sais pas, parfois, dans l'éducation, on est un peu bloqué. Parce que voilà, on n'est jamais assez bon. On se sent jugé tout le temps. Et c'est fatigant, en force. Donc c'est intéressant, voilà, juste pour comparer les deux écoles.
Tu te sentais beaucoup mieux dans cette philosophie de...
Bah, tu te sens moins bloqué, ouais. Tu partages tes idées.
Ils vont plus libre, en fait, de oui, développer ça, ta créativité libre. Artistique.
Voilà. Oui, il n'y avait pas...
C'est quand même pas rien.
Ben non, c'est pas rien. C'est quand même pas rien.
C'est pour ça que tu veux y retourner.
Et oui, on le sent un peu dans le milieu professionnel aussi, c'est vrai. Ouais. Ça m'intéresserait. Ouais.
Du coup, t'as fait un film là-bas.
Ah bah oui, j'ai fait mon film
Floating in my mind.
Bah oui, c'était l'occasion.
C'était un super film. Hein,
oh bah merci. Voilà.
Un des meilleurs films de notre promo.
Mais
et
alors...
le quatrième film le plus vu sur
allez,
YouTube
bon,
de
allez,
Gobelin.
Tu peux le casser,
mais
tu
oui,
peux le casser.
C'est assez incroyable. Donc
c'est
presque 1 million de vues sur la chaîne YouTube de Gobelin. Dont
oui.
La moitié, c'est moi.
Ah, ça va. Non,
pour tout tenir. Et non, mais voilà, c'est un super film. Ce qui est génial, c'est que comme tu l'as fait toute seule, c'est toi. C'est ton style de A à Z, c'est ton style graphique,
oui.
C'est tes dessins, c'est le style d'animation qui te correspond et c'est l'histoire que tu as voulu raconter de A à Z sans aucun compromis.
Bah, c'est vrai. Bah, compromis, après, c'était le temps qu'on avait. On avait quoi, 3-4 mois pour le faire, donc c'est vrai que ça, fallait le prendre en compte. Et ça aide à structurer un peu son approche hein, pour faire un film, parce que c'est pas facile. On commence un film, on a envie de tout faire. On veut être ambitieux, on veut faire plein de décors, plein de machins. Bon, après, faut être quand même assez réaliste sur...
Du coup, pas de décors.
Bah non, alors moi, j'ai enlevé les décors, comme ça, c'était fait. C'est juste des gens qui marchent, c'est bien. Non, ben, oui,
assez
c'est
bon
aller...
film, quand même, hein.
Mais tu m'as bien aidé, en plus, hein. Tu m'avais bien aidé au début. Je t'avais partagé un peu. Hein, les...
Ouais.
Et bah. Oui, bah, voilà, c'était aller le côté... Je sais pas, exprimer une manière la plus simplement possible, en fait, le plus direct possible.
Ça correspondait au format des films qui sont faits à Calars, parce que là-bas,
ouais.
Tous les élèves font leurs films, chacun, il n'y a pas de film par équipe.
Oui, c'est ça, de 1, et c'est 4 ans Calars, hein, de la première
ans.
Année à la quatrième année, chacun fait son film seul à la fin de l'année. Donc ils ont l'habitude, hein, dès la première année, ils ont des limitations hein, quand même. La première année, c'est qu'en noir et blanc, je crois, il ne faut pas que ce soit plus d'une minute.
Ouais.
Donc ils apprennent petit à petit à se limiter, justement. C'est pas mal, hein, c'est vraiment... Mais c'est une école de réalisateurs, là-bas. Hein. Ils sont
bah,
tous,
voilà,
ils veulent sortir, ils veulent être réalisateurs. Ou storyboarder, c'est beaucoup.
Storyboarder.
Oui, bah oui, les gens qui veulent raconter.
Mais
oui, mais c'est ça, en fait. Alors que Gobelin, c'est quand même plutôt animateur technique.
Animateur
ouais.
Technicien.
Ouais, on voit la différence aussi.
Du coup, ça t'a tellement plu, cette expérience à CalArts, t'as voulu rester bosser aux États-Unis.
Bah oui, je suis... Bah oui,
qu'est-ce qui s'est passé après?
Bah non, mais c'est pratique parce que à CalArts, je sais plus quand c'est, en mai, je crois, ils organisent une journée de portfolio. T'as tous les studios qui viennent, ouais. Disney, Pixar, Laika. Ils regardent tous les books, ils demandent des interviews à certaines personnes, et c'est là que tu peux avoir des bons stages, en fait, en sortant de l'école. Et c'est là que j'ai rencontré Jib Jab, et qui m'ont embauché tout de suite après.
Direct.
Après CalArts.
Donc,
ouais.
Après le diplôme de Gobelin, t'es retourné aux États-Unis.
Bah voilà, oui, ils m'ont fait une offre de stage, et on est suivi une offre de...
Ouais.
Oui, un an, bah, c'était illimité normalement, mais le visa a fait que j'ai dû rentrer au bout d'un an.
Et Jib Jab, alors t'as fait quoi là-bas exactement?
Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est sympa ce qu'ils font Jib Jab. Bon, ils sont connus pour leurs cartes interactives, là, des petits lutins de Noël où tu mets ta tête et voilà, tu fais danser. Mais ils ont tout un groupe pour les enfants où ils développent des petits films d'animation et des livres d'illustration interactifs. Et j'étais dans cette catégorie, j'ai aidé à faire des petits films et des... Et voilà, oui, j'ai créé des livres pour les enfants là-bas. C'était vraiment sympa, hein. Ça m'a permis de rester créative, de définir des styles pour des films, des trucs. Donc c'était sympa, c'était des petits projets, hein. J'ai rencontré plein de gens talentueux là-bas, donc c'était génial. Après...
Ta première expérience concrète dans le monde du travail en tant qu'employé, est-ce
oui.
que ça correspondait à ce que tu t'attendais de ta vie professionnelle d'artiste quand tu étais jeune?
Quand j'étais jeune, bah, c'est passé par tellement de phases. On rêve tous d'aller à Disney hein, quand
ouais,
on est. Ben oui, c'est ça. Puis après, bon, bah, on découvre un peu l'envers
c'était
du décor.
Angeles, c'était pas si loin de Disney.
Ben oui, bah, on a visité, on avait des amis là-bas. C'est sympa de voir comment ça se passe. Après, ce qui est bien sur des plus petits projets, c'est que tu es libre de créer ton style de A à Z, en fait. T'apprends, bon, après, sur les gros films, les longs métrages, tu vas être restreint à faire juste un personnage, parce que c'est un personnage. Voilà, juste storyboard ou layout, ou tu vas choisir juste une partie et tu peux pas vraiment déborder. Alors que sur des petits projets, c'est ça qui me plaît en fait, c'est de pouvoir faire un projet de A à Z, de tout créer, de l'idée jusqu'à la conception finale. Et à Jib Jab, je trouvais ça sympa. On était vraiment libre de créer ce qu'on voulait en fait. Alors que Disney, tu dois. Enfin bon, j'ai pas fait de stage chez Disney, donc je peux pas dire. Mais tu dois quand même suivre une certaine idée, un certain style.
Ouais.
J'imagine, hein. Bon, toi, t'es allé chez Pixar, donc tu pourras nous en parler, hein.
Mais alors, donc t'as bossé à Jib Jab pendant un an. Et t'es revenu après.
Donc, oui.
À cause des questions de visa.
À cause du que, bah oui, bah, la visa, c'est de plus en plus compliqué aux
États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? T'as bossé un peu en freelance?
Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis revenu à Paris, puis AKA, le studio AKA à Londres m'a contacté assez rapidement pour travailler sur des projets de pub, de court-métrage chez eux, donc... Finalement, je me suis dit je vais aller à Londres, il y a pas mal d'opportunités là-bas et je connaissais, j'avais déjà fait un stage chez AKA, donc c'est vrai que je les connaissais, c'est pratique.
Pour les Gobelins, t'avais fait un stage chez
AKA. Ouais. Et Nexus aussi, du coup j'avais pas mal de contacts et c'est ce qui m'a poussé finalement à déménager là-bas et j'y suis resté. Bah j'y suis depuis, ça fait là, un an et demi, deux ans presque.
Que t'es à Londres.
Que je suis à Londres.
Parce que récemment en fait, du coup t'as été remarqué par une petite boîte qui démarre.
Oui, ah bah oui. Ouais.
Donc si vous allez sur Google, Hélène, en fait, c'est la seule artiste, on n'a pas besoin de taper son nom sur Google pour voir son travail. En fait, tu vas juste sur Google et tu tapes rien et en fait, tu vois le travail d'Hélène puisqu'elle fait les doodles.
Ah, oh, les doodles, bah oui.
Donc elle a été embauchée par Google pour faire les doodles.
Pour faire les doodles, eh oui. C'était...
Comment ça s'est passé alors?
Alors, comment ça s'est passé?
C'est eux qui t'ont contacté.
Ils m'ont contacté, oui, ils avaient repéré mon travail grâce à un artiste qui travaillait là-bas, qui avait donné mon site, et du coup ils m'ont contacté pour une interview. Ils étaient intéressés par le côté assez, le style, bon, bah mon style, oui, le style.
Mon style.
Voilà, ils étaient intéressés par le style.
Ouais, ils aimaient ton style.
Voilà, donc ils m'ont contacté pour une interview en Californie. J'y suis allée, j'ai dû présenter mon travail pendant une heure, toutes les écoles, les studios. Une interview d'une journée, c'était assez fatigant. Ouais. c'est 6 interviews d'un coup, je crois, en une journée, de différentes personnes de l'équipe. Au final, ça s'est très bien passé, ils m'ont offert le job tout de suite après. Et voilà, donc depuis, je travaille à Londres, à Google. J'attends mon visa pour pouvoir partir là-bas, parce que toute l'équipe est là-bas. On est une quinzaine d'artistes dans l'équipe et la première française.
Yes, c'est vrai.
Yes. Ben oui, mais oui, ben, ils sont tous américains. Non, il y a un anglais dans l'équipe, mais sinon ils sont tous américains. Donc c'est vrai que ce serait bien d'ouvrir un peu plus la porte aux Européens pour être dans l'équipe. Ouais. Parce que
à Google Londres, bah, il y a pas d'anglais.
Ben non, il n'y avait pas d'équipe Doodle, en fait. Comme moi, j'avais besoin d'un visa, ben, je suis restée là. Ils ont embauché depuis 3 autres personnes. On est 4, là, en tout. Et on est 4 Européens. Et du coup...
Il y a des chances que tu partes à San Francisco.
Ben, il y a des chances. C'était ça l'idée, d'être embauché et d'aller là-bas. Mais après, la question se pose de peut-être ouvrir une branche à Londres pour permettre à d'autres artistes européens de rejoindre l'équipe, parce que je trouve ça quand même important d'avoir des gens qui viennent un peu du monde entier pour faire les doodles. C'est quand même dessiner de sujets qui...
C'est quoi du coup ta méthode de travail pour faire les doodles? Comment ça se passe?
On me donne... Oui, c'est ça, ils ont toute une liste. En fait, cette année, j'ai pu faire les doodles français, les Shadok. J'ai fait les Shadok, c'était mon premier doodle français, c'était génial. Bah oui, tu fais toute la recherche.
Et parfois il y a des animes, donc du coup c'est toi qui fais les animes.
Bah moi j'aime bien, oui, moi j'ai été embauchée en tant qu'animatrice, donc je me sens mieux de faire des petits animes. Bah oui, il y avait beaucoup d'illustrateurs, j'étais la deuxième animatrice, je crois, embauchée. Donc ils aiment bien, ça marche quand ça bouge, hein. Et du coup, oui, j'essaye de faire en général des petites animations, mais bon, on est très limité techniquement, hein, parce que... Ça doit être des loops courts, parce que c'est l'imitation de taille, en fait, voilà, c'est ça. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Moi, j'adore travailler avec des textures et tout, mais on peut pas. Faut que ce soit, l'image soit la plus légère possible. Donc, il y a beaucoup de contraintes techniques, voilà. Et ça, c'est intéressant, mais ça limite quand même un peu, parfois.
Du coup, tu peux nous parler d'un projet
en particulier
que t'as aimé faire, Google.
Et moi j'ai bien aimé le tout premier que j'ai fait. Je suis arrivée en une semaine, on m'a demandé de faire le doodle du Nouvel An.
Ouais, je me rappelle.
Avec les petits oiseaux là. C'était. Celui-là je l'ai trouvé marrant parce que tout de suite c'était merde, qu'est-ce qui représente la nouvelle année? Du coup j'étais là, l'éclosion, le nouveau, qu'est-ce que. On ne sait pas à quoi s'attendre, donc j'ai un peu tourné la question. Je me suis dit, des petits oiseaux, peut-être qu'ils attendent que l'œuf éclore. Qu'est-ce qui va éclore de ce stuff, de cette nouvelle année? C'est tout. J'aime bien, en fait, quand on peut réfléchir vraiment à un sujet et trouver des idées autour de ça. Parce que les doodles, c'est souvent représenter un artiste. Donc tu fais dans le style de l'artiste. Mais après, tu as des sujets comme la nouvelle année. La Saint-Valentin, la Saint-Patrick, toutes ces choses-là, tu peux vraiment faire des créations plus personnelles, trouver, mettre ta patte en fait.
Tu réfléchis beaucoup avant en fait de commencer à dessiner, avant de poser le crayon.
Il faut savoir répondre au sujet, faut savoir être original, faut savoir. Moi, je trouve que l'humour c'est hyper important dans tout ce que tu fais.
Ouais.
C'est la manière, ça passe mieux, je sais pas comment dire. Je veille à ce soit humoristique.
Tu veux faire passer quelque chose, une émotion?
T'as besoin de ça hein, dans tout ce que tu fais. C'est dès que tu fais passer l'émotion, c'est génial, c'est gagné. C'est pour ça qu'on dessine, hein, c'est pour ça qu'on fait de l'art.
Bien joué!
C'est bon, on a fini.
Du coup, tu dis, tu racontes tout ce qui se passe par la tête quand tu réfléchis en fait avant de dessiner, mais quand tu dessines, qu'est-ce qui te passe par la tête en fait? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Tu réfléchis ou tu vas à l'instant?
Mais ça dépend en fait. Quand on fait du croquis d'observation, c'est apprendre à analyser, cadrer. Oui, c'est toujours apprendre à faire passer une émotion, même quand tu fais du dessin d'observation, en fait, la technique que tu utilises. le cadrage, tout, c'est qu'est-ce que tu veux montrer dans ce que tu dessines, c'est... Faut que ce soit vivant, expressif, faut que... J'ai pas d'exemple en tête, là, laisse-moi le temps de trouver...
Bah des exemples, justement, enfin, c'est... C'est qui les artistes qui t'ont influencé?
Ouais. Il y en a tellement. Je crois que le plus grand, ce sera toujours Sampé, de toute façon. Sampé, il est parfait parce que il sait réduire à juste un simple trait toute l'émotion en fait humaine. Et ça, c'est fort pour moi. Et quand j'ai découvert son travail, bah, c'était quand je lisais Les Petits Nicolas, hein, quand j'étais petite. Hein, je ne sais pas si tu lisais aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est génial. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est le génie pur du dessin pour moi. C'est vraiment savoir exprimer toute cette richesse de l'émotion humaine.
Avec quelques
points. Ouais, c'est dingue.
T'as besoin de détails, en fait.
Non, mais non, plus c'est ça. Ben non, c'est ça qui est fort pour moi. Sans paix, ça restera vraiment...
Il y a une phrase qui dit « La perfection, c'est pas quand tu ne peux plus rien rajouter, c'est quand tu ne peux plus rien enlever. » En fait, c'est quand il y a le moins de choses possible et que c'est parfait, en fait.
Ah bah voilà, qui a dit ça?
Bah je sais plus.
Mais oui, mais c'est ça.
C'est quelqu'un qui a dit ça et j'essaierai de retrouver et je le mettrai en dessous. Mais
c'est
qui? C'est exactement ça.
Mais ouais, mais bah, c'est ça qui m'a toujours fasciné. Il y avait un artiste, je sais plus qui c'est, hein, tu pourras couper. C'est... Qui avait écrit une longue, longue lettre et qui s'était excusé de ne pas avoir pu faire plus court au final.
Ouais.
Tu t'excuses de ne pas aller à l'essentiel parce que c'est difficile de... Ouais,
Bah
oui, mais dans le dessin, c'est ça. Quand t'arrives à atteindre ce niveau-là, en fait, de crobarder sans gommer, sans redessiner, sans...
Sans faire 30 fois le même trait.
Oui, bah oui, c'est la spontanéité, en fait. Quand t'arrives à ce niveau-là, c'est que ça va. Tu réfléchis plus. C'est quand tu fais des gammes au piano, tu sais que t'arrives à jouer au final parce que tu connais tellement tes gammes, du coup, t'as tellement... T'es tellement entraîné avant que ça vient naturellement. Et c'est ça, c'est le niveau qu'il faut atteindre en fait, en dessin, tant qu'en musique, partout.
Ton style, il est quand même pensé un peu comme ça. Il est très simple, des formes géométriques très fortes et des traits
lâchés.
Ouais, c'est-à-dire que tu te perds pas dans des détails inutiles.
Non, mais c'est dur, mais il faut recommencer des centaines et des centaines de fois. Moi, je veux pas me montrer hein, toutes mes ratures. Tu montes celui qui marche à la fin, hop, tu le postes sur Internet et c'est facile. Les gens, ils croient que ça vient tout seul. Mais non, c'est des heures et des heures de boulot, d'observation. Moi, j'adore l'encre parce que c'est vrai que ça donne cet aspect un peu lâché. C'est pour ça que j'adore Ronald Searle aussi. C'est génial, ce style. Franquin, même en France, c'était.
J'adore Franquin.
Bah oui, mais parce que c'est hyper expressif au final.
Au niveau des posings, il n'y a pas plus clair que.
Oui, bah c'est ça. Mais il y a beaucoup d'anglophones qui s'en inspirent de Franquin. Ils n'ont pas là-bas. Hein. Mais c'est.
T'as d'autres inspirations
entraîner, hein.
D'autres artistes qui t'ont vraiment influencé?
Bah beaucoup de. Peut-être des écrivains même. Comment,
ouais, des écrivains.
Boris Vian, tu vois, tous ces artistes-là qui... Je sais pas, il y a les mots qui créent des images, en fait. Ça m'a toujours inspiré aussi, le côté un peu...
Le piano cocktail.
Ouais, mais voilà, tout ça, mais c'est génial.
Est-ce que tu pourrais nous donner, en fait, un peu ta méthode de travail quand tu fais une illustration, par exemple? Quels outils tu utilises? Quel est ton process, quoi, de A à Z?
Pour une illustration personnelle ou...
Ouais, par exemple, ce que t'as sur ton livre, ce que j'ai vu sur ton...
En général, je réponds à un sujet donné. Moi, c'est ça qui m'aide, en fait.
T'as besoin d'un sujet ou tu...
Moi, je crois que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un sujet, de mélanger des idées. Si j'ai un thème de base, déjà, ça m'aide. Ça guide. J'ai souvent des thèmes qui me reviennent, bah, à la mémoire. Hein. C'est pour ça que j'ai fait mon film de fin d'études là-dessus. C'est tout ce qui touche à la mémoire. Moi, ça m'a toujours un peu bouleversé et passionné en même temps. Mais en général, j'aime bien répondre à des sujets, mélanger des idées, deux thèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et ça donne toujours quelque chose d'intéressant. Oui,
donc
c'est ça. C'est
ça. Après, concrètement, quand tu poses ton crayon sur le papier, comment
Ah bah ça passe par...
Est-ce que tu refais beaucoup de fois le même croquis?
Ah bah oui, c'est beaucoup de croquis, parce qu'après, une fois qu'on a l'idée, il faut trouver la forme, il faut trouver le bon design, la bonne silhouette, qu'est-ce qui marche le mieux pour ce qu'on veut exprimer, c'est toute une recherche... C'est vraiment... Oui, ça passe par plein de croquis, en fait, et puis à un moment, on fait une pause, on va prendre un café, on se change les idées, on revient... On se met les idées au clair et puis tac, il y en a deux, trois qui ressortent et c'est là qu'on voit. Parce que c'est dur, hein, c'est facile de se laisser.
Comment tu sais quand t'as arrêté?
C'est la question, bah ça c'est difficile. Bah, très tard le soir ou.
C'est l'heure d'aller se coucher.
Ou juste on a mal aux yeux, mal à la tête. Oui, à un moment, ça vient naturellement, je pense. Il n'y a pas une technique, genre faut s'arrêter au bout d'une heure, deux heures. Non, ça vient quand ça vient, ouais. Ça se contrôle pas, ça se maîtrise pas.
Est-ce que tu as une éthique de travail pour entretenir ta créativité par rapport à ça? Parce que dans une boîte comme Google, tu dois faire tomber le taf. Comment tu.
Faire tomber le taf. En fait Google, déjà, on nous donne toujours un thème. Donc il y a toujours plein de recherches à faire sur ce thème-là. Après, tu confrontes ça à toi, tes envies personnelles, tes références à toi, ce que t'aimes, ce qui te plaît. C'est mélanger ta sensibilité au sujet qu'on t'impose, en fait. Mais tu fais plein de recherches. Et puis au final, tu vas avoir quelques mots qui vont ressortir. Tu vas avoir des sujets qui vont t'affecter plus que d'autres. Et c'est ça, il faut répondre aussi à ta sensibilité, à ce qui te passionne. Et ça va se voir dans ton travail, de toute façon, au final. Ce qui t'a vraiment passionné ou pas, et quand t'as vraiment fait les recherches, ça se voit.
Bien sûr que ça se voit.
Donc,
est-ce qu'il y a des sujets qui te passionnent plus que d'autres?
Aucun. Non. Qu'est-ce qui me passionne? Non, mais...
Non, mais que tu préfères.
Moi, ce que j'aime, c'est quand on me donne des sujets que je connais pas forcément, que je vais faire des recherches, que je vais apprendre, en fait. Autant que créer, c'est ça qui passionne aussi, c'est quand t'apprends autant que tu redonnes, en fait. C'est un échange, c'est un partage. C'est ça qui me passionne. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a... J'ai dû faire le 14 juillet, là, cette année. C'était intéressant et c'était assez... Moi, je suis partie sur plein de thèmes sur la France. J'ai voulu faire un petit... représenter Marianne, en fait, en tant que petit personnage qui écrivait plein de trucs et tout pour le doodle. Et en France, on m'a dit « Ouais, mais en France, elle veut pas trop être associée aux boîtes corporate et tout. On veut pas trop mélanger les valeurs de la République française à ça. » Donc, il y a eu beaucoup de restrictions, au final. C'est bizarre. On n'est pas libre complètement de traiter de tout ce qu'on veut.
Ouais.
Faut quand même rester assez safe, je sais pas.
Politiquement correct.
Voilà, politiquement, oui, mais en même temps, Marianne, je me dis... Mais bon, je peux comprendre, hein, certains pays, mais c'est pour ça qu'on parle avec tous les pays du monde entier. On a un local doodle manager, hein, ça s'appelle dans chaque pays, qui va nous expliquer ce qu'on peut ou peut pas faire dans le pays, quelle couleur va offenser ou pas, et ça nous aide à orienter un peu notre travail graphique sur le sujet. Et pour ça, c'est intéressant, en fait. Plus on en fait, plus on en apprend sur toutes les coutumes, les pays, tout ce qui peut se faire dans le monde, donc c'est vachement... enrichissant.
Non, ça te plaît.
Donc ça me plaît.
Ça ouais. Te plaît ton travail, donc c'est super. De toute façon, on arrive à la fin de cette interview.
Ah bah non, dommage.
Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner en fait aux gens qui commencent tout juste à dessiner ou qui s'entraînent tous les jours et qui veulent un jour peut-être travailler dans des grands studios, peut-être pas forcément à Google, mais qui veulent vraiment maîtriser leur art à un niveau professionnel.
Faut pas perdre de vue ce qui te passionne, en fait, dans le dessin. Faut pas que tu perdes ça de vue, parce que c'est ça qui va donner ta force et ta personnalité dans ce que tu fais. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, mais vraiment ce petit truc qui t'a passionné depuis le début pour suivre cette voie, faut pas que tu le perdes de vue. Parce que c'est facile de se laisser impressionner en fait partout. On va rencontrer des tas d'artistes. Hein. À l'école, moi je me suis dit, ça sert à quoi? Il y a tellement de gens qui font 10 000 fois mieux ce que je fais. Mais au final, t'as quand même ta touche. Ça va se ressentir. Faut pas que tu perdes de vue ça. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là concret, mais.
Oui, c'est ça, faut pas perdre ta route, sinon tu t'égares en fait. Si
ça va vite, oui, de s'égarer.
Si tu fais plus ce que t'aimes,
ouais.
Tu sais plus pourquoi tu le fais, et du coup tu perds complètement la.
Ouais. L'envie. Oui, c'est
tu
un peu ça.
L'envie et tu
faut
perds.
Faut pas que tu perdes cette envie, hein. Voilà. Okay. C'est tout. Moi, c'est ça mon conseil. Enrichis-toi autant que tu peux, mais perds pas de cette passion de base qui t'a donné envie de faire ça.
Oublie pas le pourquoi.
Voilà, oublie pas le pourquoi.
Le pourquoi, c'est plus important
mais
que.
Mais c'est vrai, mais ça sent.
Tu fais un objectif est plus important que l'objectif.
Voilà, très bien, Johan. Sur ces belles paroles.
Sur ces belles paroles, nous terminons le podcast. Merci, Hélène Leroux, d'avoir accepté d'être interviewée pour le podcast apprendre-le-dessin.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview.
Yes.
Voilà pour cette première interview. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci Hélène d'avoir accepté d'être la première à être interviewée pour le podcast. Je suis encore désolé pour la qualité de l'enregistrement. Je promets que ça ne se reproduira plus. Si vous voulez voir plus du travail d'Hélène, vous pouvez aller sur Google. Et puis vous pouvez aussi aller sur son site helenleroux.com. Je vous conseille aussi son film, évidemment, Floating in My Mind, sur YouTube, vous trouverez facilement. Et sur la chaîne YouTube d'Hélène Leroux, vous pourrez trouver le making-of, avec plein de recherches graphiques, de storyboards, de tests d'anime, c'est super. Vous trouverez tout ça facilement sur YouTube. Et je mettrai de toute façon tous les liens dans la description du podcast. Sur ce, je vous laisse sur cette citation que l'on a évoquée dans l'interview et dont j'ai retrouvé l'auteur. C'est Antoine de Saint-Exupéry. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Bon, je crois que j'ai plus rien à ajouter. Je vais maintenant me retirer. Allez, ciao.
Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo, du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.